Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Palt, directrice générale de la RSE et de la Fondation L'Oréal. Bonjour Alexandra, je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Bah, je suis ravie, puis là on est à distance, donc c'est quand même si on est déconfiné depuis le 11, on enregistre le 13, on reste à distance par mesure de sécurité. Et puis en plus, j'ai vu hier soir passer une annonce assez grandiose de L'Oréal, et donc je trouvais que c'était génial de pouvoir t'avoir ce mercredi dans l'empreinte. Avant de nous raconter tout ça, moi j'ai envie de savoir qui est Alexandra. Qui se cache derrière cette femme qui occupe un poste aussi important chez L'Oréal, le leader de la beauté au monde? Donc, qui es-tu? Tu veux revenir sur ton parcours? Dis-moi où tu veux revenir, peut-être enfance, adolescence, juste études. Enfin, voilà, dis-moi ce que tu veux, tes engagements. Tout m'intéresse.
Ah, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que mes engagements, ça a commencé assez tôt. J'étais déjà très, très féministe dans ma jeunesse. Je me suis très tôt engagée dans des associations et des ONG à partir de 16 ans. Et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me sens toujours très féministe et très engagée. Mon parcours a après été une première partie de mon parcours dans le milieu associatif, très important. Donc, je suis juriste de formation et je me suis spécialisée sur le droit de l'homme et le droit des femmes. Et cette spécialisation m'a conduit à travailler dans différentes organisations associatives, non gouvernementales, internationales, mais également françaises. Jusqu'à ce que me dire dans les années 2000, autour de 2000, en fait, il y a un sujet intéressant qui émerge, qui est cette question de la responsabilité des entreprises. À l'époque, c'était la question de responsabilité des entreprises pour des violations de droits de l'homme. Quel rôle jouent les entreprises pour les entreprises d'extraction minière ou pétrolière? Il y avait beaucoup, beaucoup de cas de violations de droits de l'homme. Et après, les premières grands cas environnementaux comme Brent Spar Oil Platform, etc., les premiers grands scandales. Et donc là, a émergé donc à cette époque un débat un peu plus structuré, une pensée plus structurée autour de la responsabilité des entreprises. Et c'est vrai que je vais toujours me souvenir qu'autour de l'année 2000, j'avais 28 ans, je me suis dit, ça c'est un sujet intéressant. Les entreprises et leurs responsabilités dans la société pour d'autres enjeux que juste leur réussite économique. Et je me souviens que j'étais dans la voiture avec une amie en Autriche et je disais, c'est dans ce domaine-là que je veux chercher et je veux trouver un travail parce que je crois que c'est l'avenir. Et je me souviens très bien de son regard très incrédule et qu'elle me disait, mais pourquoi elles font ça, les entreprises? Quel est leur intérêt? Aujourd'hui, encore quelques fois, je lui dis, ah ben, tu vois, tu t'es bien trompé parce que c'est quand même devenu un des grands enjeux pour les entreprises, pour la société, que les entreprises contribuent donc à la transition écologique et à une société plus inclusive.
Donc, tu as fait tout ton parcours dans la RSE ou tu avais fait d'autres, tu avais exercé d'autres fonctions auparavant?
Je fais plus ou moins, non, je travaillais quelques années avant. Je travaillais dans un cabinet d'avocat, à la cour.
Des études de droit,
en fait. Ouais, je fais des études de droit. Donc, j'avais travaillé quelques années comme juriste. Mais ça m'a, même si je trouve ça un métier intéressant et le droit est passionnant, mais c'était pas pour moi. Je savais que je voulais vivre ailleurs qu'en Autriche et faire une carrière plus internationale et également que j'allais pas faire un métier purement de droit. Et donc je me suis très très vite retrouvée sur les questions des responsabilités des entreprises et depuis j'ai abordé cette question par tous les angles dans le milieu associatif, comme consultant, dans la sphère publique, quand je travaillais à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Donc, j'ai vraiment vu le sujet par tous les côtés.
Et la beauté, tu pensais y aller ou pas? Est-ce que c'était un secteur qui t'attirait?
Mais pas du tout, je dois avouer.
Je ne dis pas ça parce que je vais finir dans la beauté aussi. Moi, ça ne m'attire absolument pas. Et quand je vois des femmes comme toi qui, au final, s'engagent et finalement arrivent là, c'est génial.
Non, mais pas du tout, je dois te dire. C'était vraiment un grand hasard de la vie. Et une des grandes qualités aussi de l'entreprise pour laquelle je travaille, de L'Oréal, de sentir un potentiel chez une personne, un profil atypique, quelqu'un qui est un peu différent et dire bah, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire avancer les choses, pour profiter de cette richesse et cette diversité de parcours. Donc, quand L'Oréal m'a proposé le poste à l'époque, j'étais pas du tout sûre que finalement ça allait devenir le job de ma vie, là où je pus faire le plus de choses, où je me suis épanouie personnellement et professionnellement comme on n'a qu'un autre endroit.
Quand tu me dis à l'époque, tu as pris tes fonctions quand?
Il y a 8 ans et demi.
Ah là là, et alors mais en 8 ans et demi, ça me fascine, tu as dû voir une évolution incroyable sur ces sujets. D'ailleurs, est-ce que tu as commencé vraiment avec des fonctions intitulées directrice générale de la responsabilité sociale et environnementale? Voilà, ça a évolué.
Et je n'étais pas au comité exécutif non plus, ce que je suis aujourd'hui. En fait, ce qui est très intéressant, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours envie de partager avec d'autres femmes et jeunes et toute personne qui se pose des questions, c'est que moi, je peux faire ce parcours au sein de l'entreprise parce que je suis arrivée dans un environnement qui était mature et qui avait envie de faire ce chemin-là. Donc, on ne peut pas être Don Quichotte tout seul et transformer un contre tous. Ça ne fonctionne pas. Moi, je suis arrivée dans un environnement où j'avais un PDG qui avait ces convictions-là et qui avait juste besoin que quelqu'un les articule dans une stratégie, dans un plan d'action et amène le sujet avec lui toujours plus loin. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. Donc, je ne pense pas qu'il faut mettre la barre à trop haute envers soi-même. C'est-à-dire, il faut quand même, on peut transformer, on peut apporter des choses, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut un environnement où les décisionnaires, les équipes ont également envie d'aller dans ce sens-là, où au moins on peut susciter cette envie-là. Et donc ça, c'était le cas chez L'Oréal. Il y avait un énorme appétit pour cette transformation-là, une volonté de faire des choses sérieusement et grand, hein, comme on a vu par rapport à ce qu'on a annoncé hier soir. Et donc, moi, je peux jouer un rôle de catalyseur et d'amener encore plus d'ambition, de stratégie, de structuration qui ont donc permis de vraiment s'engager dans cette transformation.
Et du coup, tu as staffé aussi beaucoup d'équipes. Au début, tu étais seule.
Pratiquement, ouais. On était. Je commençais toute seule. Après, on était 2. Après, on était 4.
Et les engagements du coup du groupe de L'Oréal, comment ils ont évolué? Est-ce qu'ils ont été pionniers en la matière ou est-ce qu'ils se sont adaptés à cette révolution écologique, à cette prise de conscience?
Ben moi, je pense, bien sûr, je suis un peu subjectif, mais moi, nous avons en tout cas pris le chemin qui nous a le mieux préparé possible, tu vois, à tous les enjeux qui se concrétisent et s'accélèrent maintenant. Ce que nous, on a fait en 2013, on a donc pris des engagements très, très forts. À l'époque, sur beaucoup, beaucoup de ces engagements, on ne savait pas comment les atteindre. C'était vraiment visionnaire. On s'est dit, en 2020, ce qu'on va attendre de nous, c'est plus que juste des engagements sur le changement climatique, plus que des engagements à côté du business. On va nous demander de transformer le cœur de notre business. Et donc, c'est un peu ça la différence, je trouve, de ce qu'on a fait et pourquoi on est assez fiers du chemin qu'on a parcouru, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de chemin devant nous aussi. Hein.
Et concrètement, quels engagements vous avez pris?
On a dit, si tu veux être sérieux, il faut t'attaquer à les produits et services que tu vends. On ne peut pas prendre des engagements qu'à côté de la chaîne de valeur. Donc, nous, on a dit, 100% de nos produits vont améliorer leur profil environnemental. Donc, en 2013, c'était énorme. C'est des améliorations de l'impact environnemental. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'aujourd'hui, chaque marketeur, chaque producteur, chaque concepteur de produits, développeur de produits, a un outil dans lequel il doit remplir le profil environnemental de chaque produit qu'il veut mettre sur le marché. Et donc, ça a conduit à une totale transformation d'état d'esprit de nos équipes. Ils savent maintenant sur chaque produit, chacun peut vous dire, sur la formule, on peut faire ça et ça pour améliorer l'empreinte environnementale. Sur le packaging, on peut faire ça. Si on change la forme du packaging, ça va prendre moins de transport, donc moins de camions, moins de CO2 dans le transport, etc. Aujourd'hui, on est quand même autour des 90% de produits améliorés.
Quand tu dis améliorer, ça passe par du bio ou pas aussi sur des produits?
Non, pas forcément. Il y a bien sûr de range bio, il y a de produits bio, il y a toute une ligne qui s'est développée, par exemple Garnier Bio, il y a aussi nos marques bio.
Et est-ce que vous faites confiance dans les startups justement naissantes comme Respire ou les petites prodiges que j'ai eues d'ailleurs dans l'empreinte? Et d'ailleurs, je crois que vous aviez longtemps travaillé avec les petites prodiges pendant un moment où elles étaient dans votre incubateur chez L'Oréal. Toutes ces marques uniquement bio. Est-ce que vous en êtes, pour vous, c'est des vecteurs d'inspiration ou au contraire des concurrents?
Moi, je pense que ça peut être le deux. Bien sûr, on fait du bio, donc toutes les marques de beauté bio sont aussi des concurrents. Après, ça a marché où il y a encore de la place. Et bien sûr, ça peut aussi être de l'inspiration. Donc, mais ça ne veut pas dire que toutes nos marques ne vont pas devenir bio. Ça, c'est très clair parce qu'il y a différentes aspirations des consommatrices et il y a d'autres manières aussi de travailler sur l'empreinte environnementale et sociale que juste le bio.
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, pour avoir le label bio, parfois des marques sont même encore plus respectueuses, mais n'arrivent pas à décrocher ce label. Donc, parce qu'il est coûteux. Donc, ça dépend aussi des normes, etc. Et moi, j'ai vu aussi que dans tes engagements, il y avait beaucoup la place des femmes.
Absolument, bien sûr. Je pense que je voudrais juste finir sur un point sur parce qu'il faut aussi qu'on prouve à la société aujourd'hui les transformations dont on parle. Là où on a le plus réussi et ce qu'on a un peu dépassé, c'est on s'était engagé de réduire donc nos émissions CO2 de notre activité industrielle. 80% de produits sont produits par nous-mêmes. On avait dit on va réduire donc de moins 60% nos émissions CO2 depuis 2005, une ligne de départ 2005. Et en fait, on a réussi à les réduire déjà en 2019, on était à 78%. Donc, on a réussi à décorréler la croissance, donc l'augmentation de notre production de notre impact.
Concrètement, comment vous les avez réussi?
Ça, c'est beaucoup l'efficacité énergétique. Donc, travailler avec les équipes dans chaque usine, mais également l'utilisation très importante d'énergie renouvelable. Et après aussi, bien sûr, l'innovation. On a des usines qui installent de la biomasse, des usines qui installent de photovoltaïque, donc plein de choses différentes. Donc, trois leviers, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et l'innovation. Et aujourd'hui, on est donc à moins 78% fin 2019, moins 78% d'impact CO2 dans notre activité industrielle. Et ça montre un engagement très, très fort. Maintenant, il faut encore aller plus loin.
Moi, j'allais te challenger juste sur une petite chose. Par exemple, enfin, tout transparent, j'aime beaucoup les crèmes que j'achète chez L'Oréal, enfin, des marques de L'Oréal. Mais néanmoins, autour du carton, ils mettent un petit plastique. Pourquoi? Donc, est-ce que vous avez prévu aussi de réduire le plastique dans les emballages?
Absolument, absolument. Ça, c'est mais tu as tout à fait raison. Ça, c'est un de nos plus grands challenges et on est complètement transparent sur ce sujet. Tu as complètement raison. Ça, c'est un de nos objectifs en cours et sur lesquels on va également s'engager pour 2030. C'est-à-dire, donc, comment le plastique en soi, s'il ne finit pas dans les océans, ce n'est pas un mauvais matériau pour de l'emballage. Hein.
Surtout qu'il protège. Moi, j'avais eu le PDG de Greenwiz qui me disait que parfois, il valait mieux mettre un peu de plastique pour éviter des retours de produits cassés. Donc, en fait, il y a quand même parfois le plastique, finalement, gagne, on va dire, en termes d'écologie, s'il est issu uniquement de plastique recyclé, je pense, et qu'il ne détériore pas la qualité du produit à l'intérieur.
Et surtout, il faut travailler sur le recyclage un maximum. Donc, le plastique est un bon matériau si on arrive à le recycler. Donc, nous, on s'est engagé à introduire beaucoup de plastique recyclé déjà dans nos packaging. Donc, de ne pas utiliser juste du nouveau plastique, mais de plastique recyclé dans nos packaging. Et en 2025, on sera à 50%. Et en 2030, on veut être à 100%.
Même Coca-Cola a réussi le challenge du plastique recyclé dans ses bouteilles à 100%. Donc, je pense que L'Oréal peut le faire.
À quel moment Coca-Cola s'est engagé pour...
Ils se sont engagés à 100%. Ils sont pas loin. Ils sont à 80% de plastique recyclé dans les bouteilles. Nous disait, parce que j'ai eu le directeur RSE de Coca-Cola, et ils se sont engagés également là-dessus. Donc, moi, je trouve que c'est quand même bien.
Ouais, c'est très, très important.
Mais bien sûr. Parce qu'en fait, le plastique, il y en a. Donc, autant l'utiliser. Autant le recycler, l'utiliser plutôt que, justement, qu'il pollue les mers, les océans, etc. Ça, c'est top sur les engagements écologiques. Et du coup, tu as fait une annonce hier. Donc, hier, nous étions le 12 parce que l'épisode ne sera pas diffusé le 13.
Ouais.
Qui consiste en quoi?
Oui, donc hier, on a annoncé le lancement d'un nouveau programme qui s'appelle L'Oréal for the Future, L'Oréal pour le futur. Je ne sais pas si tu as vu, mais on s'était beaucoup engagé pendant la crise sanitaire du Covid avec un plan de solidarité pour les fournisseurs, pour nos clients, mais aussi avec la production d'énormément de gels hydroalcooliques et de donations aux hôpitaux, aux personnels soignants, aux associations. Mais on est bien sûr conscient que la crise sanitaire, c'était la première phase. Et maintenant, il y a deux autres crises qu'il ne faut pas oublier. C'est une crise sociale, parce que les plus précaires et ceux qui étaient à la limite sont quand même... tomber dans la précarité. Donc, maintenant, il faut travailler sur cette crise sociale et soutenir les populations le plus précaires et le plus vulnérables. Et deuxièmement, bien sûr, la crise écologique qui n'est pas du tout en train de disparaître et qui nécessite un engagement fort. Donc, on a annoncé hier la mobilisation de 150 millions d'euros avec deux formes d'engagement. Donc, 50 millions pour les femmes en situation de vulnérabilité, donc au travers d'un fonds de dotation, et 100 millions d'euros pour de l'impact investing sur la question de la biodiversité et l'économie circulaire. Donc, l'idée derrière, c'est qu'il faut très, très clairement accélérer la transition écologique. Et pour cette transition écologique, on ne peut pas oublier la question sociale. Et donc, il faut en même temps œuvrer pour un monde inclusif. Et il faut vraiment réunir ces deux enjeux, les enjeux environnementaux et sociaux, à traiter les deux. Mais maintenant, il faut passer à une autre vitesse. Il suffit pas de juste appeler de ce vœu à la transition et un nouveau monde. Nous, on pensait que c'était vraiment de notre responsabilité d'agir maintenant et de débloquer ce budget pour permettre, pour démontrer qu'on reste aussi engagé, aussi convaincu qu'au contraire, on accélère notre engagement et donc on veut contribuer à ces enjeux auxquels le monde est confronté.
Et concernant les femmes, du coup?
Oui, donc on est très engagé sur les femmes chez L'Oréal. C'est une valeur et un engagement historique. L'Oréal, donc on est très féminisé au sein de l'entreprise avec beaucoup de femmes dans des postes de responsabilité. On a la fondation L'Oréal qui travaille sur les femmes scientifiques et la beauté inclusive. On a beaucoup travaillé aussi en interne et avec d'autres entreprises sur la question de la violence contre les femmes. Et donc, pour nous, c'était assez naturel d'entendre les acteurs de terrain avec qui on a l'habitude de travailler nous alerter sur le fait que les femmes sont disproportionnellement impactées par la crise qui se manifeste actuellement. Différemment, parce que d'une part, elles sont, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu ou perdent leur emploi, qui rentrent dans une phase de précarité. Si avant c'était difficile, par exemple, pour des mamans de famille monoparentale à joindre le deux bouts, là, on a un glissement vers la pauvreté. On a les femmes victimes de violences, plus 30% pendant la crise Covid. Donc, ça, c'est que le chiffre officiel. Donc, c'est certainement plus. On a des femmes réfugiées, sans abri. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vulnérabilités, extrême vulnérabilité et précarité auxquelles on veut apporter une réponse avec ce don de 50 millions d'euros.
C'est génial, ça. Et quels sont les prochains challenges pour L'Oréal, du coup? Même si là, tu m'en as évoqué beaucoup, beaucoup.
Oui, mais là, il y en reste, et je pense que c'est important d'en parler. Tu as raison d'avoir donc mentionné le plastique qui reste et le packaging qui reste un challenge. En juin, on va donc annoncer les prochains objectifs de notre transformation interne, parce que on est convaincu qu'il faut contribuer à l'externe, donc au travers donc ce engagement de 150 millions d'euros, mais il faut également poursuivre notre transformation interne vers un modèle économique complètement durable. Donc en juin, on va annoncer nos objectifs 2030 et toute la transformation qu'on engage, donc pas juste sur les questions du climat, mais également de l'eau, de la biodiversité et de l'utilisation des ressources. Donc, sur tous ces volets-là, nous nous donnons de nouveaux objectifs, encore plus ambitieux, très difficiles à atteindre. Hein. Il faut toujours alerter qu'on se donne des objectifs très, très ambitieux. Enfin, on le dépasse et sur d'autres, on n'arrive pas. Mais on veut vraiment se positionner et nous donner en interne une ambition très, très forte pour pouvoir engager une transformation très forte. Donc, on a bien sûr des engagements autour de la neutralité de toute notre activité industrielle. Donc, en 2025, toutes nos usines, centres de distribution, nos sites administratifs seront carbone neutre. On a des engagements autour de la biodiversité qui est très, très malmenée aujourd'hui et un enjeu énorme sur les matières premières qu'on utilise. On a engagé une profonde transformation aussi de notre science vers l'utilisation de plus en plus de matières premières végétales sourcées durablement, etc. Donc, c'est vraiment la prochaine étape dans cette totale transformation.
Et est-ce que je peux te poser une question, notamment liée à cette crise sanitaire là qu'on est en train de vivre, puisqu'elle n'est pas finie, même si on sort du confinement. Comment L'Oréal a vécu cette crise et comment toi-même, en tant Alexandra, tu as vécu ce confinement et cette crise sanitaire?
L'Oréal, nous, c'est vrai qu'on est une entreprise agile, assez réactive, avec de fortes valeurs. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est de voir que ils se sont exprimés d'une manière extraordinairement forte. Donc, 2 jours après l'annonce du confinement, un plan de solidarité partout dans le monde pour nos fournisseurs qui sont donc payés au jour comptant et ne doivent pas attendre pour justement privilégier le fournisseurs et leur trésorerie, donner donc des délais de paiement à nos clients, à livrer à tout le monde du gel hydroalcoolique. Ils se sont mis à produire du gel hydroalcoolique, à contribuer aux hôpitaux, aux soignants, de donner aux distributeurs le don de la Fondation L'Oréal pour les associations pour les populations les plus vulnérables. Donc, pour moi, c'était un moment très très fort, et quand on a ensuite travaillé donc sur le projet L'Oréal pour le futur et l'annonce, je me suis dit cette crise est extrêmement révélateur. Elle rend évident les choses, et là elle m'a permis de être encore, je dois l'avouer, plus fière de mon entreprise, parce que vraiment révélé toute cette dimension d'engagement.
Sens dans tes mots que tu es fière d'être chez L'Oréal, et que tu es fière au-delà du fait que ce soit de la beauté des engagements du groupe et peut-être de l'esprit du groupe L'Oréal, j'ai l'impression. Puisqu'en fait, finalement, ces engagements que tu portes, et vu ton background dont tu me parlais avant, tu es une femme engagée. Est-ce que toi, au quotidien d'ailleurs, tu es engagée, et de quelle façon ?
Oui, je me sens engagée. Mais maintenant, je dois dire, j'ai des enfants qui sont encore jeunes, un garçon de 9 ans et une fille de 6 ans. Ce qui fait que je fais moins de bénévolat que je faisais avant d'avoir les enfants, mais j'ai toujours eu une activité de bénévolat pendant une dizaine d'années, notamment sur les questions des discriminations et des discriminations raciales et liées à l'origine. J'ai beaucoup travaillé sur les questions donc de jeunes diplômés issus des quartiers défavorisés ou issus des minorités visibles et comment les intégrer dans l'emploi. Donc c'est un engagement très très fort. Maintenant, je fais de temps à autre du bénévolat, mais j'aime pas trop en parler parce que c'est les bénévoles que je veux honorer, ce sont vraiment ceux qui vont tous les jours. Et là, par exemple, pendant la crise, je les ai vus, les jeunes, par exemple, de banlieue santé, aller tous les jours faire des paquets alimentaires, sensibiliser les gens, etc. Donc, je trouve que c'est formidable. Et il faut vraiment remercier ces bénévoles parce qu'ils ont apporté une réponse pendant la crise sur le terrain qui était extraordinaire. Donc, aujourd'hui, la société civile, pendant cette crise, a fait un travail formidable. Certainement, souvent en coopération avec les entreprises et les pouvoirs publics, mais c'est grâce à ces bénévoles que beaucoup de personnes on a pu aider avec aussi le don de produits d'hygiène, l'aide alimentaire, etc. C'est vrai que c'est un moment qui a révélé le meilleur. Et ça, c'est souvent quelque chose qui se passe dans de grandes crises humanitaires ou sanitaires. Et quelquefois, ça a aussi révélé des choses moins bien. Pour L'Oréal, pour moi, c'était un moment de grande fierté, de bonheur de travailler dans une entreprise aussi engagée où c'est vrai qu'on a la chance d'avoir donc un PDG qui a donné ces orientations-là pendant tous ses mandats à cette entreprise et donc qui se manifeste aujourd'hui dans chaque décision.
Merci beaucoup Alexandra. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Je sais là que tu dois aller filer sur le plateau de BFM Business, donc je te souhaite bon courage.
Merci beaucoup.
Je te souhaite une bonne santé et de pouvoir mener à bien tous ces projets, puisque vraiment le but c'est d'encourager les bonnes actions, les actions écologiques responsables de l'environnement. Et si les grands groupes comme L'Oréal et des personnes comme toi peuvent inspirer d'autres personnes de la sorte, et ben je pense qu'on en sera tous ravis.
Ben, merci beaucoup, merci pour cet entretien.
Et merci à vous d'avoir écouté L'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Podinstall, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Ça nous ferait le plus grand bien pour valoriser L'Empreinte que nous efforçons de mener également à bien. Bonne journée.